L'équipe de Radio Pays d'Hérault vous invite à découvrir l'audioguide de la commune de Nébian à hauteur d'enfant. Une série de capsules sonores qui vous accompagnent le long d'une balade ludique et pédagogique pour partir à la découverte des anecdotes cachées qui font la poésie de ce village aux accents chantants. Le tout à portée des enfants. Nous étions présents à son inauguration à Nébian le samedi 6 juin en compagnie d'un groupe de curieux désireux de redécouvrir ces rues remplies d'histoires. Cet audioguide a été réalisé par le service patrimoine de la communauté de communes du Salagou, Cœur d'Hérault. Vous entendrez dans ce reportage ses créateurs Céline Viau, responsable du service patrimoine, Patrick Hernandez, ancien chargé de mission au service patrimoine et guide conférencier, et Cédric Sander, deuxième adjoint à la mairie de Nébian. Les productions ont été créées en collaboration avec le conseil municipal des jeunes de Nébian et la complicité des aînés porteurs d'anecdotes, Claude Dran, David Sberna et Christian Bru. La mise en voix, les enregistrements et le montage sonore ont été réalisés par Maëva Belin et Samuel Hendrix. Bonne balade à Nébian.
Bah d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Donc, nous sommes là pour inaugurer cette balade sonore, Nébian à hauteur d'enfant. Mais avant tout, je souhaitais revenir brièvement sur la genèse du projet. Donc, tout a commencé avec une rencontre inter-CMJ l'année dernière avec Céras Perret et Nébian. Et pendant cette journée, nous sommes partis à la découverte du patrimoine de nos villages respectifs. Et c'est à cette période que Céline, du service patrimoine de la communauté de communes, a pris contact avec nous pour ce projet de balade sonore. Après discussion, le projet collait parfaitement avec le thème, d'autant plus qu'il y associait aussi la parole de nos aînés, chose importante pour nous, pour le village, où nous essayons toujours de mettre en avant l'intergénérationnel. D'ailleurs, la semaine dernière était à nouveau organisée la Color Run de Nébian, reflet de ce mélange de générations. Et nous voilà partis pour de nouvelles réunions de travail avec les jeunes, avec Céline et Patrick de la CCC, et trois de nos aînés que nous remercions chaleureusement, Claude Dran, Christian Bru et David Sberna. Nous avons évoqué travailler sur des lieux remarquables de notre village. Ils ont apporté chacun leur vision de Nébian au travers d'histoires, d'anecdotes et de leurs précieuses connaissances. Nous avons ensuite procédé à deux sessions d'enregistrement par le biais de questions-réponses et de détails racontés, avec l'aide et la collaboration de Maëva et Samuel de la radio RPH. Ils ont su mettre à l'aise les jeunes et les moins jeunes et donner des conseils de pro. Donc merci à eux, merci à tous les acteurs du projet, merci à nos jeunes, merci pour la confiance que tous vous nous accordez. Vous allez donc pouvoir découvrir le résultat de ce projet commun et je vous souhaite une belle balade.
Surtout au conseil municipal des jeunes, parce que c'est vrai que quand je suis allée, voilà, on s'est rencontrés avec cette idée un peu loufoque de se dire on va faire une balade avec les enfants. Alors au début, c'est vrai que on se dit comment on va procéder. Donc en tout cas, je remercie le CMJ parce qu'ils ont été vraiment présents. Les enfants aussi, merci pour votre présence et votre régularité, parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises, il fallait se lever le matin, mais finalement, vous voyez que ça vaut le coup des fois de s'investir, parce que vous êtes vraiment fiers de ce livret, parce que c'est vous qui l'avez fait, vraiment. Et puis j'espère que ça inspirera peut-être d'autres enfants dans d'autres villages, et que vous pourrez, vous, à votre tour, transmettre cette expérience. Et puis je tiens à remercier aussi Patrick, mon ancien collègue du service patrimoine, mais qui est toujours là pour donner un coup de main et puis surtout pour nous aiguiller sur l'histoire du village, parce que c'est vrai qu'il a été vraiment, grâce à lui, ça a été facilitant de pouvoir rencontrer des personnes clés qui connaissaient bien l'histoire du village, et puis il a vraiment aussi accompagné les enfants sur la connaissance historique. Et voilà, merci à tous, merci d'être là ce matin, de vous être levés. On va faire une petite... on va pas faire toute la balade. C'est un parti pris, c'est pour vous donner aussi envie de revenir, de revenir avec, pourquoi pas, vos proches, vos cousins, votre tonton, votre oncle, pour refaire cette balade en intégralité. Donc nous, on va faire le circuit juste dans le village, mais ça va nous permettre de découvrir tous les points d'arrêt. Et puis,
On prendra le temps. Si vous avez des questions, il faut en profiter. Parce que du coup, bah, on a avec nous les trois habitants de Nevian qui pourront peut-être compléter les informations. Patrick également. Et puis bah, les enfants aussi, si vous avez envie de réagir sur les souvenirs que ça vous évoque d'avoir participé à ce projet, il ne faudra pas hésiter. Voilà.
Merci.
Bonjour, vous tenez entre les mains une balade sensible audio-guidée réalisée par le service patrimoine du Salagou Cœur d'Hérault. C'est une balade un peu particulière puisqu'elle a été imaginée et créée par les enfants du Conseil municipal des jeunes. Et bien sûr, elle s'adresse à des enfants, mais aussi à leurs parents, à tous ceux qui ont envie de découvrir Nevian à hauteur d'enfant.
Voilà, on est devant une des parties les plus anciennes de Nevian, hein, parce qu'on est devant de l'ancienne commanderie de l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Cette commanderie a été créée au XIIe siècle, donc précisément 1157. Donc vous êtes vraiment sur une partie la plus ancienne du village de Nevian. Elle est restée commanderie jusqu'à 1392, hein, c'est-à-dire avec un commandeur, vraiment un seigneur qui vivait sur place. Hein, et ensuite, à partir de 1392 jusqu'à la Révolution française, c'est devenu une simple maison de Saint-Jean, une simple maison d'accueil. Le commandeur, lui, était parti sur la commanderie de Pézenas. Et donc, voilà, c'est l'ordre de la commanderie de Saint-Jean de Jérusalem. À l'heure actuelle, c'est l'ordre de Malte. Hein. Si vous en avez entendu parler, c'est un ordre, c'est une association maintenant un petit peu internationale. Hein. Parce que voilà, les hospitaliers, ils n'étaient pas qu'en France, hein, ils ont été sur Malte, ceux qui ont fondé la Valette. Hein. Il y avait aussi l'ordre des Templiers. Donc on ne peut pas comparer Nevian à la Couvertoirade ou aux commanderies qu'il y a sur le plateau du Larzac. Mais il faut imaginer quand même qu'il y avait ce même pouvoir et ce même type de construction.
Peut-être une petite précision.
Oui, venez avec moi, Claude.
Ce que je n'avais pas signalé la dernière fois. C'est que pourquoi il y a eu une commanderie à Nevian. Nevian, ce n'était pas le village le plus important dans le secteur. Vous avez beaucoup de villages tout autour qui étaient plus importants. Ça vient du fait que participer à cette croisade, ça a été dit tout à l'heure, c'est le seigneur Béranger, c'est la famille des Guillem, les Guillem de Clermont. La famille des Guillem de Clermont, il y avait ce Béranger numéro 2, Béranger 2, qui avait ce terrain à Nevian. Il était propriétaire de ce terrain. Il avait eu, en participant à la croisade, à la première croisade, qui avait démarré en 1095, il avait eu la chance, disons, d'être accueilli par les hospitaliers. Et il a voulu faire un don en revenant de la croisade, et ce don, ça a été de donner ce terrain qu'il possédait à Nevian. Voilà pourquoi les hospitaliers se sont installés à Nevian. En plus, il y avait l'église qui était à côté, et cette église, c'était l'évêque de Lodève. Il n'en était pas propriétaire, mais disons que c'était lui qui gérait tout ce qui était le clergé autour de Lodève. Et il avait donné cette église également, enfin pour l'entretien, et pour recevoir aussi ce qu'on appelait la dîme, aux hospitaliers. Et c'est pour ça que ça s'est développé ici. Voilà la raison qui fait que c'est Nevian qui a eu la commanderie et pas ailleurs.
C'est tout. Merci Claudin.
Ouais.
On continue ?
Le cadran solaire, on ne le voit pas très bien. Il est cassé. Il servait à donner l'heure du matin. Et l'autre cadran servait pour sa valeur du soir. Aujourd'hui, dans la commanderie, il y a la bibliothèque où on peut emprunter des livres et des jeux.
Donc là, on est arrivé à ce qu'on appelle l'intérieur de la commanderie. Dans la commanderie, au XIIe siècle, c'était en gros tout ce quadrilatère ici. Hein. Le parking faisait partie de la commanderie. On voit les remparts derrière vous, ça faisait tout ce tour ici. Et puis après, quelques maisons autour, mais les maisons sont faites petit à petit. L'intérieur de la commanderie, vous aviez donc deux cadrans solaires. Hein. Un qui est encore là-bas en place, qui a marqué Cota Forte Tua, et en dessous Fantur Plurus Norin Possi. Pour les non-latinistes, je ne le suis pas, mais grâce à M. Dran qui m'avait fait la traduction à l'époque. Hein. Cota Forte Tua, ça veut dire quelle heure est-il, c'est peut-être la tienne. Et en dessous, le phylactère en latin, c'est beaucoup de gens parlent, mais peu ont cherché à savoir. Okay. À méditer.
Souvent.
À méditer. Souvent. Et 1760, c'est la date donc, de création de ce cadran solaire, hein, qui fonctionne. Hein. Bon, là, il n'y a pas le soleil de ce côté pour le moment, mais après, voilà, on peut se fier à l'heure solaire pour avoir l'heure réelle. Et vous en avez un de ce côté-là, justement, qui est au soleil de matin, pour par rapport donc à la disposition de la commanderie, pouvoir l'heure ou le matin ou l'après-midi. Il y a encore le caveau.
Ah ouais.
La cave a fermé, voilà. Parce que c'est sûrement pas
ça. Le long de la route.
Donc là, on arrive un petit peu à la frontière entre la partie vraiment commanderie 12e siècle et la partie château du 14e siècle. Donc là, on est plus après tout ce qui est guerre de Cent Ans, voilà, le château qui est venu sur cette partie-là de Nibiam. La particularité ici du village, c'est qu'il y a encore les traces de fortifications. Et c'est assez unique sur le secteur. On voit encore les traces de tours semi-circulaires. Hein. Les maisons qui sont construites des anciens remparts. Et on voit encore des petites fenêtres qui correspondent aux anciens créneaux qu'il y avait au niveau des remparts. On voit là-bas, sur votre droite, là-bas, encore une grande tour. On voit une trace d'arbalétrière. Hein. On voit des archères aussi, on verra quand on va y passer. Il y avait, a priori, alors, la rue qui est juste là, à l'époque, ça servait de douve. Dessous, il y a un ruisseau que les jeunes connaissent, parce qu'on peut y passer dessous et descendre en bas jusqu'après la salle des fêtes. Hein. Il y a même un lavoir dessous, sous la voiture qui est juste ici, là. C'est un souterrain dessous.
Ah oui, ok.
Ouais, tout a été recouvert, je ne sais pas dans quelle année, mais dessous, voilà, on peut encore accéder. Hein. C'est un des anciens lavoirs du village donc, qui permettait donc, de récupérer de l'eau et de laver sur le linge. On arrive dans la partie donc, du château. Hein, donc là, on est vraiment sorti de la commanderie. On est parti château, donc plutôt 14e siècle. Hein. Donc là, on est plus sur une construction en quadrilatère avec des rues perpendiculaires et parallèles. Vous voyez cette porte-là d'accès qui est quand même très, très large et très épaisse. Hein. La porte ouverte qui a été refaite dans les années 2000 par un habitant de Nibiam qui s'appelait Jim Buck. Un Anglais voilà, qui s'est investi dans le patrimoine de sa commune, hein, les Nibianais s'en rappellent. Hein. C'est une reconstitution de la herse qui avait certainement au Moyen-Âge. Hein. Il s'est inspiré des herses qu'il y a sur Aigues Mortes hein, pour l'avoir reconstituée.
Elle fonctionne plus si on voulait refermer la porte là.
Oh, je pense que si.
Si, encore le système.
On va la descendre, la herse, quoi, ou pas ?
Comme disait Patrick, là, on mettait carrément une poutre qu'on ne pouvait plus ouvrir. Et de là-haut, si vous regardez là, on voit le jour là-haut, quand les gens arrivaient. Ils jetaient de l'eau bouillante, ils jetaient des pierres, ils
venaient.
Voilà. C'est pas vrai. Exactement.
Nous sommes ici devant la source Navis, un des lieux naturels les plus anciens du village, puisque c'est là où les premières populations de Nibiam se sont installées. Et cette source Navis a la particularité de couler en permanence, elle ne s'est jamais tarie. Et encore aujourd'hui, voilà, elle alimente de nombreux jardins grâce à des petits canaux d'irrigation qu'on appelle des béals. Et beaucoup de gens de Nibiam et des alentours viennent chercher cette eau qui a la réputation d'être très pure.
La source Navis, qu'on va aller voir pour terminer la visite, hein, qui arrive ici. Donc dans la chaîne, cette année, elle coule encore bien, bien comme il faut avec les pluies du printemps. Et cette source ensuite alimente en bas la fontaine de la République. Autre particularité qu'on ne trouve pas forcément dans les villages aux alentours, c'est la fontaine. Devant Christian, on voit encore sur le promontoire de cette fontaine ici. Là. Donc, il faut imaginer la fontaine primitive sans ceci. C'est bien que ça, d'accord. Ça, c'est date de l'époque napoléonienne, quand Napoléon faisait mettre des pyramides un petit peu partout. Et cette pyramide, à l'époque, elle était en bas, au niveau de la Marianne. Hein. Quand la République est arrivée, voilà, la Marianne a été mise sur la place en bas, et ils n'ont pas voulu détruire donc la pyramide de Napoléon, sans doute que politiquement à cette époque-là, ils étaient peut-être plus proches de Napoléon encore que de la République, hein, mais ils ont mis cette pyramide donc sur cette fontaine-là, plutôt que de la détruire. On n'en trouve pas beaucoup de témoignages de Napoléon dans les villages autour, hein, donc c'est assez rare aussi encore sur Nibiam. Et le témoignage voilà, de l'eau qui coule aussi dans le village par rapport à la source Navis qu'on va aller voir dans quelques minutes. Alors on va aller se mettre au frais à la source. Hein. On va arrêter le débit. On va se prendre.
Ici, on est au jardin public. D'un côté, on a le city et en face, le parc pour enfants. Il y a beaucoup de plantes.
Pendant l'année, il peut y avoir des concerts. Ou sinon, quand il y a le color run, il y a un château gonflable. aussi on peut y venir s'amuser, faire des pique-niques.
Je m'appelle donc Céline Viot, je travaille au service patrimoine de la communauté de communes du Clermontais.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le projet porté par le service patrimoine, les fenêtres sur patrimoine ?
Alors, effectivement, le service patrimoine porte plusieurs projets, notamment une programmation qui s'appelle « Fenêtres sur les patrimoines », qui est donc un petit guide bleu tout au long de l'année qui propose des sorties, mais aussi des rencontres avec des producteurs locaux, des artisans. C'est un programme tout public qui s'adresse à la fois aux habitants, mais aussi aux visiteurs de passage, puisqu'on a un territoire très attractif au niveau touristique, étant donné la diversité des patrimoines qui nous permettent d'avoir une diversité aussi de propositions tout au long de l'année.
Alors ce document, c'est un guide. Est-ce que tu peux nous dire comment il fonctionne et sur quel lieu on peut le retrouver ?
Alors ce guide fenêtre sur les patrimoines, il est facile à trouver, il est bleu. Et il y en a trois dans l'année, donc un pour la période de septembre à décembre, un autre de janvier à juin et un autre un peu particulier pour l'été. On le retrouve bien sûr à l'office de tourisme du Clermontais et aussi dans les antennes qui sont ouvertes pendant l'été et pendant les vacances scolaires. Donc ces antennes de l'office de tourisme, on les retrouve à Mourez, à la maison du Grand Site et aussi sur la base de plein air au Salagou. Donc cette programmation, elle est tout public, puisqu'elle s'adresse à la fois aux habitants, mais aussi aux visiteurs de passage. Et on essaye de bien sûr proposer à la fois des sorties qui vont être pour les familles, aussi des familles peut-être un peu plus sportives, des sorties découvertes, mais aussi des sorties pour mettre en valeur les producteurs locaux, les artisans, puisque le patrimoine, ça ne s'arrête pas au paysage. On parle bien des patrimoines, c'est pour ça qu'on l'a appelé fenêtre, pour justement montrer toute la diversité que l'on a sur le territoire. Et donc on a la chance de travailler pour fabriquer finalement cette programmation. On s'appuie sur un réseau associatif qui est donc force de proposition que l'on contacte pour justement proposer une découverte des patrimoines naturels. Donc là, on va s'appuyer sur des associations comme Kermit, Demain la Terre et bien d'autres encore. Et puis, on va aussi travailler avec des guides conférenciers ou des prestataires qui vont proposer des sorties pour découvrir les patrimoines historiques.
Est-ce que tu peux nous donner un peu la temporalité de la création d'un guide à partir du moment où on commence et au final, quand il est dans nos mains, enfin, comment le dérouler, quoi ?
Alors en fait, c'est vraiment une programmation qui se fait tout au long de l'année. C'est-à-dire que moi, la recherche, on va dire, de partenaires, de nouveaux lieux, de nouvelles sorties, ça se fait tout au long de l'année. Pour concocter un programme, généralement, on s'y prend quasiment 9 mois à l'avance. Parce que bien, il faut vérifier les sorties que l'on va proposer. Il faut aussi pouvoir décrire, donc il y a toute la partie rédaction, vérifier les informations pratiques, toute la logistique. Et puis, enfin, on va mettre en forme toute cette programmation. Et donc là, je travaille avec une chargée de communication qui va bien sûr vérifier l'exactitude des informations, les fautes d'orthographe éventuellement. Et puis, on travaille avec un graphiste, puisqu'on a la chance au sein de la communauté de communes de pouvoir faire nos créations avec nos propres compétences, ce qui est plutôt un point fort. Et donc, le graphiste, il va nous aider à mettre en forme. Mais c'est vrai que ça demande parfois beaucoup d'aller-retour parce que ce travail de montage, il prend du temps. Et donc, voilà, quand on concocte un programme, voilà, il faut prévoir minimum 9 mois à l'avance.
Ça sonne beaucoup, on est bien.
Ah ben là, parce que... là, on s'était dit, oh, c'est bon, on a passé.
Donc, Cédric, je suis Cédric Sander, donc deuxième adjoint à la commune de Nébian et avec la délégation donc, de la jeunesse, du sport et du conseil municipal des jeunes.
Alors, tu as participé avec les jeunes du CMJ à l'édition d'un fenêtre sur les patrimoines à Nébian. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le CMJ et comment vous vous êtes retrouvés dans ce projet ?
Donc je suis en charge du CMJ, le Conseil municipal des jeunes de Nébian. Alors, avec eux, on va travailler sur des projets d'animation sur le village. On va travailler aussi un petit peu sur ce qui est question de civisme. On va parler de valeurs citoyennes, de république et essayer de monter des projets pour le village, pour faire bouger le village pour tout le monde.
Comment, avec les jeunes du CMJ, vous êtes rentré en contact avec le service patrimoine du Clermontais ?
Donc d'abord, on avait travaillé avec le CMJ l'année dernière sur le patrimoine du village. On avait travaillé en fait en commun avec deux autres villages, Serras et Perret, qui ont aussi leur conseil municipal des jeunes. Et l'idée était de travailler sur le patrimoine respectif de nos villages. On avait visité à tour de rôle nos villages respectifs. Et c'est à ce moment-là en fait que Céline Viau de la communauté de communes nous a contactés, qui avait un projet de balade sonore pour le village. Vu que ça a coïncidé avec notre projet actuel, on a sauté sur l'occasion.
Alors comment elles ont été réalisées, ces balades sonores ? Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes séances qu'il y a eu et comment les jeunes ont pu s'impliquer dans ce projet ?
Alors d'abord, nous sommes réunis avec Céline. On a discuté du projet avec les jeunes du conseil municipal. Et l'idée a été de faire venir des aînés de notre village qui ont la connaissance, qui ont des anecdotes, des histoires à raconter sur le village. On a discuté des différents lieux remarquables du patrimoine. Et de là découler les différentes capsules sonores que vous allez entendre sur la balade sonore.
Comment ça s'est passé pour les jeunes ? Est-ce qu'ils ont apprécié ? Enfin, comment tu les as sentis ?
Alors oui, ils ont tout de suite apprécié le projet. La partie la plus délicate était peut-être de trouver justement les histoires à raconter sur ce patrimoine, trouver l'histoire de ces lieux. Mais l'expérience qu'ils ont eue à s'enregistrer, à échanger avec nos aînés, non, ils l'ont beaucoup apprécié.
Et pour terminer, donc on est à la fin, là, il y a le document qui est la balade qui est imprimée, éditée, le document qui existe et tout ça. Comment vous allez le faire vivre sur la commune, cette balade ?
Donc la communauté nous a mis à disposition les prospectus. On va communiquer là-dessus par le biais de nos réseaux habituels, donc les mails à la population, on a l'application LiWAP, on a aussi le Facebook. On va communiquer là-dessus. On va essayer peut-être de réorganiser une petite balade comme ça pour que le maximum de gens puissent être au courant du projet et le découvrir.
Non, mais merci. Juste simplement, merci d'être venu, d'avoir découvert cette balade. Et puis, je vous invite à revenir à d'autres occasions pour découvrir les autres points du village. Je remercie encore tous les enfants, le conseil municipal, les jeunes, et notamment Dorothée et Cédric qui ont été là du début à la fin. Et pour moi, c'est vraiment des projets qui ont du sens, en fait, qui ont permis de créer un peu du lien intergénérationnel. C'est ça, c'est pas forcément l'aboutissement, ce qu'on voit à la fin, c'est aussi le projet en train de se faire qui donne sens au service patrimoine, aux habitants. Et j'espère qu'il y aura d'autres projets de la sorte. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Ce podcast a été réalisé avec l'aide de RPH et du service patrimoine de la communauté de communes du Salagou Cœur d'Hérault. Je vous invite à découvrir d'autres balades sur le site d'Easy Travel en allant directement également sur le site de l'Office de tourisme, destination salagou-cœur-d'Hérault.fr.